19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir Bret Easton Ellis. How are you?
I'm fine, thank you for having
me. Je vais très bien, merci de me recevoir.
Je suis très heureux de vous recevoir dans cet endroit, La Pérouse, qui date d'avant votre pays, 1766, alors que l'Amérique a déclaré son indépendance en 1776. And the police is arriving now to arrest us.
Yes, I know. I walked the hallway.
Oui, je sais. En entrant dans le hall d'entrée, avant de monter à l'étage où nous enregistrons, j'ai compris presque immédiatement ce que ce lieu était avant. J'ai compris à l'agencement des pièces que c'était une maison de plaisir.
It's exactly. That's what's written on the door.
C'est écrit sur la porte.
But le plus vieux restaurant de Hollywood, c'est Musso & Frank, qui date de 1919. Mais vous préférez les endroits plus récents, je crois.
Actually, I go to Musso & Frank.
En fait, je vais à Musso & Frank à peu près 3, 4, peut-être 5 fois par an. Il a un regain de popularité à présent qui est peut-être dû au film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Une ou deux scènes y ont été tournées. Ça a toujours été un restaurant populaire pendant les années 70 et 80, et puis sa décoration est devenue...
Decoration problems. It went
un peu ringard, ça s'est détérioré. Mais maintenant que ça a été redécoré, la nourriture y est délicieuse, mais il n'y est plus possible d'y aller. C'est compliqué d'avoir une réservation. Il faut réserver, et c'est une chose assez rare à Los Angeles. Mais c'est l'un des restaurants les plus populaires de Los Angeles, et c'est très cher.
Donc vous êtes ici pour un livre, un roman, Les Éclats, publié chez Robert Laffont, que j'ai eu la chance de lire là-bas, chez vous, à Los Angeles. Bret Easton Ellis is back. Bret Easton Ellis est de retour après 13 ans de silence. Donc c'est un roman un peu fantastique et réaliste. Une vraie visite guidée de la ville de Los Angeles. Un peu comme Joyce avec Dublin. Vous voulez devenir le romancier de L.A.?
I don't know if I'm thinking that in particular.
Je ne sais pas si je vois les choses ainsi.
I don't think I'm either thinking what Tarantino...
Je ne suis pas forcément d'accord non plus avec ce que Tarantino m'a dit après avoir lu Les Éclats. Il a dit « J'aime ce livre parce qu'il n'y a pas un seul téléphone portable dedans. » Et c'est pour ça que j'ai fait Once Upon a Time in Hollywood, plus de téléphone. Mais ce n'est pas non plus pour cette raison que j'ai écrit ce livre. Vous savez, Frédéric, voilà ce qui s'est passé. Un livre, pour moi, c'est un sentiment, une émotion. Un tourbillon, une vague d'émotions qui m'entraîne et qui m'écrase soudainement. Alors je deviens très sensible. Ça tourne en général autour de la douleur et de la confusion, mais cette fois c'était la nostalgie.
Totally, it's totally nostalgic. It's melancholic and nostalgic, exactly like the Tarantino's movie. And you are the same age, almost. Oh, by the way, happy birthday, Brett, because your birthday was on March 7 last week.
And I spent it on a.
Et je l'ai passé dans un vol de 11 heures sur la compagnie Lufthansa pour aller à Berlin.
That was how I.
C'est comme ça que j'ai passé mon anniversaire dans la classe business de Lufthansa.
It could have been worse. It could have been coach.
Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu être dans une classe normale ou économique, mais non, c'était la classe business.
Ah, quand même. Oui, je disais joyeux anniversaire à Bret Easton Ellis parce que il vient la semaine dernière d'avoir 59 ans. Le livre est vraiment nostalgique, c'est votre livre le plus nostalgique. Alors, excellemment traduit par Pierre Guglielmina, il faut le mentionner, c'est votre traducteur depuis Glamorama. C'est donc un roman, je dirais, très Fitzgeraldien.
Je dois dire que c'est peut-être bien un livre mélancolique et triste d'une certaine manière, parce qu'il est plein de regrets. Et parce qu'il raconte une très mauvaise année qui m'est arrivée en 1981, quand j'avais 17 ans. Ça raconte le passage de l'adolescence à l'âge adulte. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai essayé de m'intégrer, comme Patrick Bateman, qui disait toujours « je veux m'intégrer ». Je jouais un peu la comédie et les ennuis sont arrivés. Voilà ce sur quoi je voulais vraiment écrire. Ces gens, cette époque, mes amis, ma petite amie, mes amants, la ville elle-même.
All of the places we went to are gone.
car tous les lieux où nous allions ont disparu à présent. Mais je dois dire, je suis très heureux. J'étais nostalgique, sentimental, ça a été très émouvant d'écrire ce livre et même d'y penser. Mais une fois le livre terminé, j'étais heureux. J'étais soulagé, oui. Toutes ces choses que j'ai toujours voulu dire à propos de cette période et à propos de ces gens, Tom, Ryan, Matt, Debbie, Suzanne, ces personnages, toutes ces choses que j'ai voulu dire, je les ai enfin dites. Donc je dois vous dire, Frédéric, ça m'a rendu très heureux. 59 ans est juste un âge. Nous vieillissons plus, à l'exception de vous, évidemment. À Los Angeles, j'étais un ancien à 40 ans, alors ça ne compte plus.
Oui, c'est vrai. L'âge maintenant, oui, de toute façon, c'est foutu. Foutu pour foutu. Très bien. Je commence donc par votre premier choix musical. Évidemment, c'est le thème des Aventuriers de l'Arche perdue de John Williams. Listen to this. suis toujours avec Bret Easton Ellis et nous avons entendu la bande originale des Aventuriers de l'Arche perdue de John Williams, enfin un film de Steven Spielberg qui date de 1981. C'est un film dont vous dites que vous alliez le voir toutes les deux semaines. You saw this movie more than your parents.
Yes, I did.
Oui, c'est vrai. Durant l'année 1981, Les Aventuriers de l'Arche perdue a été un très gros film pendant l'été 1981. Ça a été probablement le plus gros film de l'année. Et comme nous étions privilégiés, l'un de nos parents avait un haut poste dans les studios, nous avons pu le voir quelques semaines avant sa sortie. On l'a vu à la fin du printemps 1981, et quand il est sorti pour de bon, je suis allé le voir toutes les semaines. En fait, j'ai plus vu le film que mes parents à cette période. Mais mes parents étaient comme les parents de mes amis, ils n'étaient pas des parents surprotecteurs. C'était un monde fait pour les adultes et nous vivions dedans. Ce n'était pas un monde de bisounours, ce monde pour les enfants n'existait pas encore. Je ne pense pas que mes parents étaient particulièrement absents ou négligents. Ils nous laissaient juste faire nos trucs et ça nous a aidés à grandir, ça nous a aidés à devenir des adultes.
Oui, mais alors là, je suis en désaccord, Brett, parce que je pense que justement, c'est un livre sur un homme qui n'arrive pas à devenir adulte, qui reste un enfant toute sa vie et qui est quand même très délaissé par ses parents, comme ses amis. Et il y a un point commun, un autre, avec Quentin Tarantino. Dans son nouveau livre qui parle de cinéma, qui s'appelle Cinema Speculations, Tarantino raconte qu'il voyait des films pour adultes à 7 ans, à 8 ans. C'est aussi le cas de Brett, le héros du livre. Behave like an adult a little bit too soon.
Peut-être, mais ça pose problème dans les deux sens. C'est aussi problématique de devenir adulte trop tard. Je crois qu'il y a un problème quand je vois des hommes de 40 ans déguisés dans des costumes de Marvel au Festival Comic-Con. Ce sont eux qui auraient dû devenir des adultes beaucoup plus tôt. Je ne peux pas nier le narcissisme de la génération des baby-boomers qui a vu grandir Quentin Tarantino et moi-même. Alors, c'était une période très libre. On pouvait emmener ses enfants voir de l'art et des films. On ne disait pas encore « Oh, ils ne peuvent pas voir ça ou ça, c'est trop violent. »
Oui.
Mon père m'a emmené voir plein de films que l'on appelle aux États-Unis des films réglementés. On doit avoir plus de 17 ans pour les voir, sauf si l'on est accompagné d'un adulte. Mon père s'en fichait.
At what age? À quel âge?
6, 7, 8, 9 ans.
That explains why you're crazy. Ça explique pourquoi t'es fou.
Well, it wasn't only the movies, Frederick.
Mais ce n'est pas uniquement à cause des films, Frédéric.
I was reading adult books.
C'est aussi à cause des livres que je lisais alors. Je lisais les livres de mes parents, je lisais des livres d'adultes, les best-sellers des grands auteurs des années 70. Tout ce mélange prenait forme, sans oublier la musique de cette époque qui était fantastique. Mes parents adoraient la musique. Malgré tous les problèmes rencontrés durant mon enfance, ça a été aussi une période très riche, culturellement très riche.
Oui, c'est vrai. C'est une période où les enfants étaient beaucoup plus libre qu'aujourd'hui, beaucoup moins protégé qu'aujourd'hui. Mais c'est en même temps le sujet du livre caché est la paranoïa. C'est un livre sur un paranoïaque. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la drogue ou une réelle trouille d'un adolescent qui est seul dans une maison à Los Angeles. Mais enfin, en tout cas, c'est un livre là-dessus.
Well, you have to understand another thing.
Oui, enfin, il faut comprendre autre chose. C'est d'ailleurs un autre point commun que j'ai avec M. Quentin Tarantino. Nous avons tous les deux grandi dans l'ombre des meurtres de Charles Manson et de sa secte meurtrière. Il en a parlé d'ailleurs dans son film Once Upon a Time in Hollywood, en lui donnant une meilleure fin, bien sûr. Et nous étions tous les deux terrifiés à l'idée que quelqu'un puisse pénétrer chez nous au milieu de la nuit et nous poignarder à mort. Nous avions aussi peur du grand nombre de serial killers qui opéraient en Californie dans les années 70, dans le nord et dans le sud de la Californie. Ils étaient partout. On s'y habituait presque d'une certaine manière. On lisait ça tous les jours dans les journaux, on l'entendait à la radio. Ils traversaient l'État 5-6 fois, laissant des corps sur les plages ou sur les autoroutes. Donc oui, on ressentais une peur latente, une terreur même en grandissant à Los Angeles. Et c'est étrange, car Los Angeles est un paradis. Los Angeles et la Californie font partie des plus beaux endroits du monde. Mais pourtant, on y trouvait des serial killers, c'est fou.
Exactement. Et moi, alors, la semaine dernière, moi j'y étais, c'était pas si paradisiaque, hein, parce qu'il a plu pendant 8 jours. Donc, vous remontez dans le temps, dans ce livre, jusqu'en 1981. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale au lycée privé de Berkeley. Et c'est cette période de votre adolescence qui illumine toute votre œuvre. Et en même temps, un beau gosse débarque dans le lycée en septembre 1981. Il s'appelle Robert Mallory. C'est le type magnifique, très beau, qui a tout, qui est très énervant. Vous voudriez être son ami. Et en même temps, il semble mêlé à une série de meurtres bizarres. Donc, il y a ce personnage qui plane, qui s'appelle The Trawler, le chalutier, un tueur en série qui aime bien découper les jeunes et les mélanger avec les cadavres de leurs animaux domestiques. Ce roman, c'est un peu Scream qui rencontre Gossip Girl.
Peut-être bien, mais c'est pas le projet de départ. Je ne voulais pas écrire Scream rencontre Gossip Girl, même si ça aurait pu être décrit ainsi. Je voulais écrire sur l'obsession. Je voulais raconter que j'étais obsédé par beaucoup de choses à 17 ans, et je voulais écrire que l'obsession entraîne une perte de jugement, une perte du sens de la réalité. J'ai même moi-même perdu le sens de la réalité à 17-18 ans. Parce que j'étais un fabuliste, j'inventais des histoires, je travaillais sur moins que zéro. J'étais un auteur de fiction qui n'avait aucun contrôle sur son super-pouvoir. Je prétendais aussi être le petit copain d'une fille alors que j'étais gay. J'avais des relations sexuelles en secret avec un autre garçon qui faisait semblant d'être hétéro. J'ai fait plein d'erreurs. Je pensais qu'un ami à moi se prostituait, je pensais qu'il se faisait payer par les hommes plus âgés et que ça lui permettait de maintenir son train de vie alors que son père lui a coupé les vivres. Quand j'ai écrit à ce sujet moins que zéro avec ce personnage que j'avais appelé Julien, mon ami qui s'appelait en fait Dominique m'a dit « Mais tu es complètement fou !» Comment as-tu pu croire ça de moi et inventer un personnage à partir de ça ? Ce à quoi j'ai répondu, je crois que oui, c'est ce que je croyais. Voilà le genre de garçon que j'étais, j'avais des obsessions. Robert Mallory est une personne qui m'a obsédé. Je le craignais et je le désirais. Mais je ne pouvais pas l'avoir car il était hétérosexuel. C'est alors que je me suis rendu compte que toute une partie du monde allait être hors de ma portée pour cette raison. Que tous les garçons qui me plairaient ne seraient quant à eux jamais attirés par moi. C'est une chose que j'ai trouvée très difficile à accepter. Le monde n'était plus fermé qu'aux autres, d'une certaine façon, ce qui a amplifié mes obsessions. Voilà le vrai sujet du livre, je pense.
Oui, c'est vrai que c'est un livre sur un homosexuel caché dans le placard, quoi. Et il y a la double peine dans ces cas-là, parce qu'il y a à la fois son attirance cachée pour les garçons, mais aussi souvent son attirance pour les hétéros. Donc ça fait vraiment la double peine. Et c'est vrai que c'est un peu le sujet du livre. So you are completely masochist.
Yes, you are. I mean, you don't want to be.
Oui, on l'est, mais on ne veut pas l'être.
What you need to do, though, and I did it ultimately.
Ce que l'on a besoin de faire, et j'ai fini par y arriver, c'est comprendre et accepter que le monde va ainsi. Voilà ce qu'il faut faire.
You cannot stay a victim of this forever.
On ne peut pas rester victime de cette situation pour toujours. Ce livre parle de cette année durant laquelle je suis un peu devenu fou. J'ai fait des choses que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai trahi des amis. Et j'ai agi de manière très dramatique. Je ne m'en étais pas rendu compte avant d'avoir 56-57 ans. Je voulais écrire ce livre il y a 40 ans. J'ai mis moins que zéro de côté pour l'écrire. Mais je n'ai pas su comment prendre les éclats. Il était trop gros, trop de choses s'y passaient. Alors j'ai repris moins que zéro et c'est à 56 ans que je me suis rendu compte que j'étais enfin en capacité d'écrire ce livre. Et tout à coup, j'en ai eu très envie. Ce n'était pas le cas à 19 ans.
You needed 40 years to go back in time.
Oui, il m'a aussi fallu 40 ans pour me rendre compte combien j'aimais ces gens et combien j'avais envie de leur expliquer d'une certaine manière qui j'étais. C'est pour ces raisons que j'agissais ainsi. Il y a des gens qui ont inspiré ce livre qui ne m'ont jamais parlé.
Alors voici encore une musique de l'époque, une musique d'un film dont vous parlez dans Les Éclats, The Shards. Et je vais vous demander, Brett, de deviner You have to guess the music of which film this is.
C'est un film de 1981.
It's a film that is in your book.
Well, it's not The Shining.
Alors, c'est pas Shining.
Not Chariots of Fire.
Ce n'est pas non plus Les Chariots de Feu, évidemment. Ce n'est pas non plus Les Aventuriers de l'Arche Perdue.
Non.
Ce n'est pas Flash Gordon. Il y a tant de films dans mon livre. Mais alors, qu'est-ce que c'est?
What is it?
Escape from New York.
Ah.
New York, well, 1997 en français. Et c'est la musique composée par le réalisateur John Carpenter.
Damn it. You know, Escape from New York was a big movie.
Incroyable, New York 1997. Ça a été un film très important pour nous en 1981. Dans le livre, la classe de terminale crée un char de parade sur le thème de ce film de John Carpenter avec Kurt Russell. J'ai entendu qu'il a lui-même écrit la partition, c'est vrai?
C'est lui, bien sûr. Oui.
Toutes ces partitions se ressemblent, donc. Je ne savais pas qui c'était.
C'est pas grave.
Mais je m'en veux de ne pas l'avoir reconnu. Je l'avais sur le bout de la langue.
C'est pas grave. Tout de suite, la coupure publicitaire pour faire plaisir à Brett Easton Ellis, qui parle beaucoup des marques de vêtements dans ses livres.
Ce soir à 20h30, vivez le récital Musique de l'eau depuis l'Hôtel Hermitage Monte Carlo. La jeune pianiste virtuose Stella Almondo propose un programme sur le thème des musiques de la mer et de l'eau. Une soirée organisée par Monte Carlo Société des Bains de Mer et orchestrée par David Abiker. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Radio Classique présente son nouveau concert à la Salle Gaveau, Beethoven ou l'hymne à la liberté. Une soirée musicale d'exception où Franck Ferrand retracera le destin hors norme de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste François-Frédéric Guy. Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, Salle Gaveau à Paris. Réservation sur sallegaveau.com.
Les sanglots longs,
le temps de rêver,
les violons,
le nouvel album de Noémie Westfeld. De Forêt à Ferré, un voyage onirique et poétique avec le quatuor Dutilleux et David Cadouche. Noémie Westfeld avec le quatuor Dutilleux et David Cadouche sera en concert dimanche 26 mars à 17h à Paris, à la Scala.
Un serpent qui danse au bout d'un bâton.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Et je suis toujours avec Brett Easton Ellis dans le salon chinois du restaurant La Pérouse à Paris. C'est un restaurant ici où Marcel Proust venait très souvent. Il en parle dans La Recherche du Temps Perdu. Et évidemment, on est un peu... Aujourd'hui, je me demande si je ne suis pas en face du Proust américain avec ce livre Les Éclats, publié chez Robert Laffont. disons, en remplaçant la madeleine trempée dans une tasse de thé par un rail de coke dans une pool party à Beverly Hills. Mais il y a beaucoup de points communs entre Proust et vous, Bret Easton Ellis. La maniaquerie du détail, les mêmes souvenirs disséqués infiniment, le mélange de snobisme et de sadisme, et surtout, le sujet central, l'homosexualité cachée. Alors, j'ai une question très simple. Est-ce que vous avez lu cet auteur français assez prestigieux ?
I haven't.
Non, j'ai pas lu.
A scoop. I tried.
J'ai essayé.
Vous l'avez réinventé.
It is next on my list.
Ah, j'espère bien.
C'est le prochain livre sur ma liste.
C.S. Moncrief translation.
La traduction de C.K. Moncrief, qui est la traduction la plus connue aux États-Unis, elle m'a été donnée à lire à l'université à l'âge de 18 ans dans un cours de littérature. Mais il ne faut pas donner ce livre à un ado de 18 ans. Je ne suis pas rentré dedans. J'ai entendu des hommes d'un certain âge dire que c'est la période pour le lire. J'ai atteint cet âge à présent, c'est la période parfaite pour le lire. C'est un livre que l'on appelle communément « Souvenir des choses passées », alors que le titre est bien « À la recherche du temps perdu ». Enfin, j'ai déjà commandé un exemplaire de ce livre et je vais le lire cette année. C'est mon gros projet de lecture.
Ah oui. Alors, j'ai cru que vous étiez très influencé par lui, parce que c'est aussi « La recherche du temps perdu », c'est aussi un livre sur comment je suis devenu écrivain. And that's the real subject, of The Shards.
It is.
And c'est le cas. Mais ça raconte aussi comment garder le contrôle sur ce pouvoir que l'on a en tant qu'auteur pour l'empêcher de s'étendre à la vie réelle pour devenir, comme je le dis dans le premier paragraphe du livre, un jeu dangereux. Ce que je faisais, comme je l'ai expliqué à propos de Julien, je réécrivais la vie des gens. Je fantasmais et je voulais que ça devienne réalité.
C'est pas grave, c'est le métier normal d'un romancier. This is the job of a novelist. It's not a problem.
It is the job of a novelist.
C'est le travail d'un romancier, mais parfois les gens en souffrent.
C'est sûr.
Et j'ai le sentiment d'avoir blessé des gens en 1981. D'une certaine manière, j'avais très peur, en me replongeant dans l'année 1981 pour écrire Les Éclats, de ne pas pouvoir retrouver tous ces gens sur Facebook, ne pas réussir à retrouver Tom Wright ou Ryan Vaughan sur Facebook, ne retrouver leurs traces nulle part. Tous les lieux où nous allions avaient disparu. Rien n'a été préservé. Personne n'a pris des milliers de photos des galeries et des boîtes de nuit où nous allions. Cette absence, ce vide, s'est mis à me hanter. Voilà le sentiment premier qui m'occupait en écrivant Les Éclats. Je suis enfin revenu à l'écriture de ce livre, dont une si grosse partie est autobiographique, dont tant de thèmes sont vraiment arrivés. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est peut-être un livre triste, un livre mélancolique. Je ressentais beaucoup d'émotions en l'écrivant. La dernière émotion a été le soulagement.
Oui.
Enfin, je l'avais écrit.
Oui, et puis c'est vrai qu'c'est la différence sans doute entre Los Angeles et Paris. C'est qu'ici, les vieux endroits sont toujours là, quasiment, presque tous. Et ça n'a pas bougé en 40 ans. Vous pouvez encore aller chez Castel, vous pouvez encore aller chez La Pérouse. Il y a beaucoup d'endroits immobiles, le Café de Flore et tout. Alors qu'à Los Angeles, ils changent tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est une grande différence.
That's true too. LA is a very young town.
Oui, c'est vrai. Los Angeles est une ville très jeune. Elle est devenue une ville il y a seulement une centaine d'années. C'est peut-être la ville la plus jeune du monde parmi les villes de cette importance. Et cela lui confère un caractère fugace. Les gens semblent se demander encore ce que cette ville doit être. Et je ne sais pas si cette ville ne sera jamais pérenne. À l'exception, je dois dire, du restaurant Musso & Frank.
Musso & Frank.
Le Roosevelt est très chic en ce moment. Mais plein de lieux ont disparu. Il y a eu des incendies, des inondations, des tremblements de terre. Cette ville change en permanence, vraiment.
J'ai un autre jeu. Là, je vais vous demander maintenant de deviner vos citations. Donc, c'est-à-dire que je vais vous lire des phrases de vos livres. Vous devez dire dans quel livre vous avez écrit cette phrase.
Yeah, it's very. I can't even remember.
J'arrive même pas à me souvenir d'un email que j'ai écrit la semaine dernière. Alors, voyons ce que ça donne.
Un personnage écoute le groupe Durand Durand et il dit « Ça me fait sentir jeune et vieux à la fois. »
I was going to say...
J'allais dire Luna Park. Mais ce n'est pas ça. Parce que c'est dans Suite Impériale.
Bravo, victoire totale. C'est dans Imperial Bedroom, Suite Impériale en 2010. Et it's true, c'est vrai que notre génération se sent jeune et vieille à la fois. C'est ça notre tragédie, mais est-ce que ce n'est pas la tragédie de toutes les générations?
It's a tragedy of life.
C'est la tragédie de la vie.
It just is. And what's even worse is that I think... You know, as Oscar Wilde said,
mais le pire, comme l'a dit Oscar Wilde, est que la jeunesse est gaspillée par les jeunes. Voilà ce qui se passe. On amasse tout ce savoir, on comprend enfin le monde et son fonctionnement. Et c'est là que l'on meurt.
Exactement.
Et quelle expérience qu'être un humain.
Une autre phrase donc de Bret Easton Ellis. I liked to dissect girls.
American Psycho.
Oui, bien sûr, j'aime disséquer les femmes. C'est Patrick Bateman dans American Psycho en 1991. Un mot sur ce grand livre complètement malade. Qu'est-ce qui vous avait, où est-ce que vous avez trouvé ce mode d'écriture complètement à la fois vide, superficiel, extrêmement cruel? Is it the influence of, I don't know, Andy Warhol or cocaine?
Well, I never write in cocaine. I've never written anything in cocaine.
En fait, j'ai jamais rien écrit sous cocaïne. J'étais complètement sobre lorsque j'ai écrit American Psycho, sobre depuis 3 ans. En fait, c'est venu de là où je me trouvais. Je venais de déménager dans une nouvelle ville, j'étais en train de devenir un homme, un adulte. Je n'aimais pas le ton de cette époque. C'était l'ère des yuppies. Les yuppies étaient des dieux. Tout le monde voulait être un yuppie.
Annoying to me, attractive, but annoying to me.
Les hommes qui travaillaient à Wall Street étaient partout, ils m'agaçaient, tout en m'attirant. Et tout à coup, ce livre m'est venu et ma peine est devenue la peine de Patrick. Voilà d'où est venu American Psycho. Jamais je ne pourrais écrire ce livre aujourd'hui, j'en serais incapable.
Don't apologize.
No.
Je ne pourrais pas écrire Suite Impériale aujourd'hui, ni Luna Park, ni aucun de mes romans. Ils sont tous le reflet de ce que j'étais à une certaine époque, et dans le cas d'American Psycho, c'était une période très douloureuse.
Mais je pense que c'est pas seulement douloureux, je pense que c'est un livre extrêmement comique, et il faut quand même le rappeler.
Hilarious!
Hilarant!
I'm just gonna give an example. All right. D'une phrase, hein. Il n'y a pas de raison de le nier. Cette semaine a été une mauvaise semaine. J'ai commencé à boire ma propre urine.
Je crois que la partie drôle de ce passage est « Il est inutile de le nier ». Je dois vous le dire, écrire American Psycho a été hilarant. Je riais tout le temps. Il y a bien sûr des moments qui ne m'ont pas fait rire, mais ça a été une écriture tellement intense et drôle. Les parties moins drôles concernaient des meurtres. Je ne savais pas comment les écrire et j'ai dû effectuer des recherches qui n'étaient pas si drôles. Mais à nouveau, j'étais obsédé par ce livre.
C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si les gens aujourd'hui se scandalisent pour un livre comme American Psycho, c'est avant tout une satire et un bouquin comique, quoi, ultra comique. Another torture for you. Une autre torture, il faut deviner dans quel film, la musique de quel film ceci est. Je parle en anglais, mais en français.
The Shining.
Mais bien sûr.
Yes.
Bien sûr. Alors, The Shining de Stanley Kubrick, 1980, une bande originale signée Wendy Carlos et Rachel Elkind, qui se sont inspirés de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. On l'écoute un petit peu.
Thank you.
la bande originale de Shining, inspirée de Berlioz. Et c'est un film que vous avez vu de nombreuses fois. Et dans le roman, vous racontez d'ailleurs une scène très belle où vous apercevez, vous tombez amoureux littéralement pendant la projection de Shining d'un beau gosse qui passe par là, que vous ne reverrez jamais.
Je me souviens être allé voir Shining et j'ai voulu écrire cette scène car c'est une scène charnière dans Les Éclats. Je suis allé le voir la semaine de sa sortie en mai 1980 et j'ai choisi une séance très tôt le matin car je savais que les séances plus tardives seraient complètes. Et c'était la première fois que j'allais voir un film seul. J'y allais d'habitude avec un groupe de copains, mais c'était trop tôt le matin pour eux. Je voulais tant le voir, j'y suis donc allé tout seul, alors que j'étais assis dans cette salle à moitié pleine, j'ai vu ce garçon et ça a déclenché les prémices des Éclats. Je ne vais pas vous dire qui était ce garçon, mais c'est une scène centrale dans le livre. Tout se met en place à ce moment-là.
Alors, je vais vous demander de lire un extrait des Éclats. Je laisse passer les flics qui nous tournent autour depuis tout à l'heure pour nous arrêter.
J'étais en route pour Palm Springs en compagnie de Todd, quelqu'un que j'avais rencontré en 2010 et qui vivait avec moi depuis 9 ans. Nous allions y passer une semaine avec une amie de New York qui avait loué une maison à la périphérie de la Movie Colony avant de se rendre à San Diego pour une série de conférences. J'étais en pleine conversation avec Todd quand j'avais vu la femme devant Pally House et je m'étais interrompu au beau milieu d'une phrase. Une voiture a soudain klaxonné derrière moi et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, je me suis aperçu que le feu était vert sur Holloway et que je n'avais pas bougé. Que se passe-t-il ? A demandé Todd au moment où j'accélérais trop brutalement, faisant faire un bond en avant à la voiture en direction de Santa Monica Boulevard. J'ai dégluti et murmuré piteusement en essayant de paraître parfaitement neutre. Je connaissais cette fille. Bien entendu, ce n'était plus une fille, je le répète. Elle avait presque 55 ans comme moi. Mais c'était ainsi que je l'avais connue, une fille. Ça n'avait aucune importance. Todd m'a demandé « Quelle fille ?» Et j'ai distraitement fait un vague geste de la main, quelqu'un devant Pally House. Todd a tendu le cou, mais n'a vu personne, elle était déjà partie. Il a haussé les épaules et s'est replongé dans son téléphone. Je me suis rendu compte que la radio était calée sur « Totally 80s », et qu'on entendait le refrain de Vienna d'Ultravox. It means nothing to me, s'égosillait le chanteur. This means nothing to me, pendant que la peur continuait à tourbillonner, une variante de celle de l'automne 1981, quand nous écoutions cette chanson à la fin de chaque fête et quand nous nous assurions qu'elle était en bonne place dans chacune des cassettes que nous compilions. We'll be right back.
floating notes, pizzicato strings, the rhythm is calling. Alone in the night as the daylight brings a cool empty silence. Of your hand and a cold gray sky, it fades to the distance. The image is gone, only you and that image, nothing to me. This means nothing to me.
Cette chanson est très importante pour vous, pour votre génération, pour la mienne. Et merci parce que j'aime beaucoup l'écouter aussi. Mais je me suis toujours demandé, ce chanteur qui dit « It means nothing to me », si ça veut rien dire pour lui, pourquoi le répète-t-il si souvent ? C'est donc que ça veut dire quelque chose.
That is absolutely correct.
Vous avez tout à fait raison. Ça n'a pas d'importance pour moi. Est-ce qu'il souhaite ressentir à tout prix ce manque d'émotion qu'il admire tant chez les personnes les plus belles du lycée, comme Susan Reynolds ? Mais bien sûr, il ne peut pas, car il est un écrivain, un artiste, et il est torturé de bien des manières. Ça n'aurait jamais aucune importance pour lui, non ?
Non.
Vous décrivez dans ce livre votre jeunesse comme une période d'une grande liberté, mais aussi d'une grande solitude. On a l'impression que vous succombez peut-être à la mode de la victimisation, ce qui me surprend de votre part. Par exemple, vous écrivez « Le prince des ténèbres était en réalité un gentil gâchis ». Vous errez en bagnole, défoncé au milieu des coyotes et de leurs yeux verts. Au passage, c'est très mal de conduire après avoir sniffé de la cocaïne. Attention, il y a eu un accident dont on a beaucoup parlé en France récemment. Donc, c'est très très mal de faire ça.
And I made sure that I had not taken enough.
Vous inquiétez pas, j'ai veillé à ne pas en prendre trop avant de prendre le volant pour rentrer chez moi après la fête de Susan Reynolds.
I did drive a lot of cocaine when I was in LA.
Mais c'est vrai que j'ai beaucoup conduit sous cocaïne quand je vivais à LA.
Generation of victims.
Mais je ne me suis jamais vu comme une victime. Je n'appartiens pas à une génération de victimes. Il y a une scène où Brett est dans un hôtel à Beverly Hills avec un producteur plus âgé à qui il pense vendre un scénario, et quelque chose à caractère sexuel arrive. Mais en 1981, on ne parlait pas d'agression sexuelle, on parlait d'erreur. C'est une erreur que j'ai faite. Aujourd'hui, je pense qu'on appellerait la police, on le ferait arrêter tout au moins, mais les choses ne se passaient pas comme ça en 1981. Je n'étais pas un enfant esselé, j'étais un enfant solitaire. Être solitaire est différent d'être esselé. Je chéris ma nature solitaire et le fait de passer beaucoup de temps seul. Personne n'est là pour vous aider à écrire un livre. Ce n'est pas comme quand on écrit un film. Quand j'écrivais Les Éclats, j'y passais parfois 12-13 heures par jour. Et ce qui arrive quand on a un compagnon, et je suis avec le mien depuis 13 ans, c'est que le livre prend le dessus. Le livre devient notre amant, notre meilleur ami, et le compagnon peut être alors mis de côté.
But something, I'm still, I will ask you the same question differently.
Okay.
Je vais vous poser la même question différemment. C'est comme si vous aviez remplacé le sarcasme et l'arrogance par le chagrin et les regrets. Et maintenant, le New York Times dit que c'est votre livre le plus sexy.
Every book to me is different.
Chaque livre pour moi est différent. Glamorama est si différent de Moins que Zéro. Le flux de conscience des lois de l'attraction n'a rien à voir avec le minimalisme de Zombies.
Every book is different.
Chaque livre est différent et reflète là où je me trouve à un certain âge. Les Éclats est un livre qui n'aurait pas pu être écrit à un autre moment qu'à une cinquantaine d'années. Je n'aurais pas pu l'écrire à 30 ans. Ce ne sont pas des choix conscients, c'est juste comme ça que ça se passe. Je ne prends pas la décision de ne plus écrire de telle manière, de ne plus être sarcastique et froid. C'est naturel, c'est juste ma manière d'écrire un roman aujourd'hui. Et c'est motivé par l'émotion, les sentiments.
En tout cas, bravo, parce que c'est, à mon avis, ton meilleur livre.
Oh my God.
Oh merci, c'est très gentil de me dire ça, Frédéric.
Et je me demandais, Quel livre aurais-tu aimé écrire?
Oh, so many. There are so many. I read.
Oh, il y en a tant. Quelques-uns parmi ceux que j'ai lus cette année. Je n'avais encore jamais lu Les Illusions Perdues. Je l'ai lu après avoir entendu parler de ce film français qui a remporté tous ces Césars. Un de mes acteurs français préférés joue dedans d'ailleurs. J'ai voulu lire le livre avant de voir le film. J'ai adoré ce livre. Mais j'ai aussi adoré Le Moulin sur la Flosse de George Eliot. Qui l'eût cru? Un premier roman. J'aurais aimé écrire Les Corrections de Jonathan Franzen. C'est le livre que j'aurais vraiment aimé avoir écrit. Il a fait quelque chose avec ce livre que toute ma génération aurait aimé faire, mais ne savait pas comment. Lui, il a trouvé comment le faire.
C'est marrant parce qu'il y a un rapport avec Balzac. Entre Franzen et Balzac, il y a un rapport de l'idée de génération, de décrire plusieurs générations. Je vous ai interviewé pour le magazine GQ en 2010. Et vous m'aviez à l'époque annoncé la disparition du livre en tant qu'objet. Je me réjouis que vous vous soyez trompé.
I am too.
Moi aussi.
I'm very glad I was wrong as well.
Je suis très heureux de m'être trompé. Le livre existe toujours. La disparition de la littérature est toujours discutée. J'ai écrit un temps, moi aussi, j'ai pu dire que le roman était mort. En réalité, c'est faux, bien sûr. J'ai passé énormément de temps à travailler sur ce roman qui était plus important à mes yeux que tout le reste. Plus important que de réaliser un film, composer de la musique, écrire un article ou travailler sur mon podcast. J'avais tort.
Vous êtes pardonné. Avez-vous définitivement renoncé au cinéma? Je précise qu'on se connaît bien, mais que du coup, je vous vois et tutoie en alternance. Hein, c'est pas grave.
Non,
je n'y ai pas renoncé. D'ailleurs, je vais réaliser un film cet automne, en octobre prochain. C'est un film d'horreur. J'en avais écrit le scénario. Les seuls films qui peuvent se faire financer aujourd'hui sont les films d'horreur. Donc, j'en ai écrit quelques-uns. Certains ont été réalisés, pas toujours bien, mais oui, j'ai repris cette activité. Et je le fais pour le plaisir. C'est une production indépendante. Je sais que personne ne va le voir probablement. Il sera perdu parmi les millions d'autres films visionnés en ligne. Mais j'ai juste envie de le faire. Et enfin, j'ai le sentiment que tout se met en place. Je vais continuer ça.
C'est complètement fou, puisqu'on commençait en parlant de Quentin Tarantino. Lui est en train de devenir un écrivain, un très bon écrivain. Et vous, vous allez devenir un cinéaste.
J'espère être aussi bon que lui à la réalisation, parce que lui, c'est vraiment un très bon écrivain aussi.
Merci à toute l'équipe. Philippe Gau pour la production, Matteo Catizone-Berardi à la réalisation, Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Thank you so much, Brad Easton Ellis, for discussing with me today, and congratulations again for Les Éclats, extraordinaire roman paru chez Robert Laffont. Je vous le recommande. Dans un instant, le journal du classique avec Laure Maison.